Vous avez peut-être pris connaissance du dossier du bureau d'enquête du Journal de Montréal, de QMI, ce matin. Pas rassurant pour la construction du nouveau pont Champlain. Pourtant, quand on passe sur le vieux pont, regarde, vous êtes peut-être en train de passer en ce moment, ça a l'air très impressionnant, très, très impressionnant. Mais il semble-t-il que quand on regarde d'un peu plus près, eh bien, il y a des travailleurs qui ont déjà fait plus de 2000 réparations sur des pièces maîtresses de sa structure. Des soudures incomplètes, des trous qui sont mal faits ou mal alignés dans l'acier, des plaques de métal fissurées ou poreuses, des boulons non conformes. Un boulon à côté d'un autre boulon, ils ne sont pas de la même longueur et de la même grosseur. On pointe du doigt une firme espagnole, la firme Tecade en Espagne, selon des dizaines de rapports, de photos, de vidéos que le bureau d'enquête du Journal de Montréal a obtenu. Ils fabriquent des très grosses pièces. Ces pièces de 30 mètres de long, vous imaginez, c'est énorme, supporteront les trois travées de circulation du pont et certaines sont situées près du pylône principal. Eh bien, juste dans ces structures, ces pièces de 30 mètres, déjà on avait signalé à peu près 300 défauts. On sait qu'une pénalité d'au moins 100 000 $ par jour de retard sera imposée au consortium Signature sur le Saint-Laurent, qui est responsable de la construction. Or, un porte-parole, un député libéral de la région de Montréal, Mark Miller, dit « Non, le gouvernement vous assure que ce sera un pont de qualité livré en décembre 2018. » Normand Tétrault est ingénieur et président de Soconex. Bonjour, Monsieur Tétrault.
Bonjour, Monsieur Hood.
C'est vrai, par exemple, que c'est un chantier d'une envergure assez importante, très, même, je dirais, considérable dans les circonstances, étant donné qu'il y a des échéanciers très serrés. Mais est-ce que c'est normal qu'il y ait autant de problèmes à un an, à peu près, de son inauguration?
Bien, ce qu'il faudrait voir à ce moment-là, c'est parce que dans tous les gros chantiers, effectivement, on a ce qu'on appelle un plan qualité. Et dans le plan qualité, justement, on identifie ce qu'on appelle les non-conformités. Donc, ça veut dire les soudures qui sont pas complètes, les trous qui sont pas alignés, les boulons pas de longueur, tous ces défauts-là sont documentés et sont suivis par le système de contrôle qualité qui est à trois niveaux. Il y a un système de contrôle qualité qui se situe chez le fournisseur. Il y a un système de contrôle qualité qui se situe en chantier. Et il y a un système de contrôle qualité qui se fait par à l'externe, autrement dit, par Infrastructure Canada, si on peut dire. Donc, quand vous passez à travers ces trois systèmes-là, ben ce qui est important, c'est qu'ils n'en oublient pas des non-conformités.
Ouais.
Qu'on en trouve, c'est une chose, mais qu'on les corrige, c'est ça qui est le plus important.
Mais ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est que ça devrait être du flambant neuf. Or, on a vu des photos ce matin dans le Journal de Montréal montrant de l'acier poreux, c'est-à-dire des poutres d'acier qui devrait être normalement flambant neuve et déjà avec des trous, des bulles qui peuvent peut-être compromettre la solidité de la plaque d'acier.
Donc, effectivement, à ce moment-là, j'imagine que ça a été détecté, s'il y en a en parlé. Donc, c'est ce qu'on appelle une non-conformité. Et lorsqu'on établit une non-conformité, ensuite de ça, il faut établir une méthode corrective. Donc, il faut trouver la non-conformité, appliquer une méthode corrective. Et ensuite, s'assurer que la pièce est conforme une fois que la méthode corrective a été faite.
Les piliers du pont sont composés de béton, d'énormes blocs, et
oui.
On a pu voir une photo en gros plan montrant le fait que sur deux blocs, il n'y avait pas tout le béton pour réunir les deux blocs en question. Il y avait comme des fissures.
Oui, ce que j'ai vu, c'est comme une ouverture.
C'est comme une ouverture. Ça va geler.
Un manque de béton entre deux pièces, effectivement. Bon, pourquoi est-ce que c'est un béton lorsqu'il a été mis sous tension, qu'il y a eu une rupture locale, on ne le sait pas.
Il faut que ça soit patché, ça, excusez-moi.
Ah oui, c'est ça, il faut que ça soit réparé. Il faut que ça soit réparé. Ça fait partie d'une non-conformité à réparer ou à corriger, qu'on appelle, dans le langage là, du chantier. Donc, oui, moi, ce que je trouve le plus important, c'est de les trouver et de les corriger, parce que on peut pas livrer quelque chose qui a des non-conformités à l'intérieur d'un dossier, et c'est pour ça qu'il y a des interventions ou qu'il y a des responsables de contrôle qualité à plusieurs niveaux.
Est-ce que c'est normal qu'on donne des contrats aussi gigantesques à des firmes à l'étranger, comme la firme espagnole TKD,
le pont a été octroyé avec un échéancier de 42 mois, ce qui est très, très, très serré. Et la seule manière de faire ça, c'est de répartir un peu partout dans le monde. Je crois qu'ils ont, Ils ont 11 fournisseurs différents pour différentes pièces, soit autant béton qu'acier. Donc, il y a des pièces qui viennent d'un peu partout. Donc, mais, autant d'Espagne, je pense qu'ils ont 4 fournisseurs espagnols, 7 au Québec, puis quelques-uns aux États-Unis.
Mais on n'aurait pas pu trouver des firmes québécoises qui auraient pu fabriquer des poutres.
Il y en a, mais les firmes québécoises qui sont dans l'acier, de structure de pont, ils ont dû se mettre ensemble pour fabriquer une partie seulement des travaux, parce qu'on ne peut pas, comme fournisseur québécois, dire, on dit à tous nos autres clients, on vous sert pas, on fait juste le pont Champlain pour le prochain 3 ans.
Mm-hmm.
Donc, ouais. les gens ont dû se mettre ensemble. Les concurrents québécois ont dû travailler ensemble pour pouvoir obtenir une partie du contrat. Et même là, c'était, je ne crois pas qu'ils avaient la capacité suffisante pour tout produire en dedans de 42 mois.
Le gouvernement, enfin, avec son porte-parole, là, le député montréalais Mark Miller, dit que ça va être prêt à temps en décembre 2018. Parce que, de toute façon, comme je le disais tout à l'heure, la firme responsable du chantier est exposée à des amendes de 100 000 $ par jour de retard. Si ce n'est pas livré à temps, est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir y arriver avec beaucoup de corrections à faire?
Bien, écoutez, c'est ce que, autrement dit, c'est pas, je dirais, c'est leur gestion de risque qu'ils font. Si j'ai bien compris, moi, dans certains détails, c'est qu'il y a le bateau qui part d'Espagne ne part qu'une fois par mois. Donc, si on attend que les pièces soient parfaites, s'ils les ont identifiées même en Espagne et qu'on arrive ici, si les pièces arrivent un mois plus tard, puis s'il y a juste peut-être une semaine de correctifs, on est peut-être mieux des embarqués avec quelques correctifs à faire que d'attendre un mois et de retarder le projet.
Exactement, mais on devrait regarder à la source avant d'embarquer des pièces qui sont pas correctes.
On n'a pas identifié s'il était pas correct au départ.
Mais il y a des boulons qui sont pas de la même grosseur, de la même hauteur, si on veut.
Ouais. Là, ce qu'il faudrait savoir, oui, c'est possible que effectivement certains boulons ne sont pas là. Ouais. Puis en plus, il y a un petit peu peut-être une partie de est-ce qu'on est en métrique ou est-ce qu'on est en système anglais.
Il faudrait le vérifier.
Effectivement, c'est à vérifier.
Ça peut arriver. Faire toute la différence.
Oui, c'est effectivement des choses à valider parce que malheureusement, on est les seuls en Amérique encore qui travaillent en système anglais. Il n'y a plus personne dans le monde qui travaille en système anglais.
On s'entend, Normand Tédreau, qu'on veut pas se ramasser avec un second stade olympique.
Non, mais je ne crois pas qu'on est dans la même orientation non plus, puisque comme ils sont responsables de l'entretien de 30 ans, ils ont tout intérêt à livrer à temps et à livrer la meilleure qualité possible, puisque pendant 30 ans, s'il y a des défauts à corriger, ils en sont responsables.
C'est vrai. Il y a au moins
donc,
ça.
Donc, il y a au moins cette...
Il y a comme une garantie prolongée.
Effectivement. Il y a une garantie prolongée que s'il y a des défauts, et j'imagine qu'ils ne veulent pas... Parce que malheureusement, un 125 ans, il n'y en a pas d'exemple de 125 ans. On a le pont de l'île du Prince-Édouard qui, je crois que c'est 100 ans qui est son espérance de vie. Et actuellement, il semblerait que ce qu'ils avaient prévu comme entretien et tout ça, c'est inférieur à ce qu'ils avaient anticipé dans leur contrat. Donc, oui, si les choses sont bien faites, ça devrait rentrer dans l'ordre. Mais par contre, c'est sûr que l'échéancier est très serré. Ça, c'est évident. Tout le monde le savait au départ. Et actuellement, je crois qu'ils ont, pas je crois, ils ont mis du personnel supplémentaire, puis ils ont mis des corps de travail supplémentaires pour être capables de rencontrer l'échéancier. C'est évident que si on le rencontre pas, c'est pas quelques jours qui vont manquer, ça va être quelques mois.
Et ça coûte cher, c'est 100 000 par jour.
C'est ça, 100 000 par jour, tu penses à la première semaine, puis après ça, c'est 400 000.
Sur un projet de 4 milliards.
Oui, effectivement, c'est important. Là. Mais parce que, par exemple, si on manque le pavage au mois de novembre 2018, ben la prochaine fois qu'on peut faire du pavage, c'est uniquement au mois de mai 2019.
Non, il faut que ça soit fait.
Non, mais c'est pour ça que je vous dis.
Oui, je comprends.
Ils ont tous les efforts à faire.
Ben non, mais si on veut une
étape qu'on peut pas faire en hiver.
Je comprends. Normand Tétrault, merci beaucoup. On aura l'occasion de s'en parler. Au revoir.
Plaisir.